fut crucifié sur une croix de cette forme. C'était dans cette minuscule chapelle que François entendait la messe, et sa présence y est plus émouvante que dans la splendeur de la basilique élevée par Élie à sa mémoire. Plus bas, au flanc de la montagne, sous la grotte toute blanche qui lui servait de cellule, une fissure dans le rocher attire le regard dans l'abîme avec cette fascination du vertige qui devait être chère à François, car on la retrouve dans tous les refuges où il se cachait du monde. Avec l'intrépidité d'une chèvre, il grimpait là où, de nos jours, un garde-fou est indispensable. On peut rêver dans cette cellule. C'est là que, pendant 40 jours, François jeûna. L'élaboration mentale de sa règle demandait pour lui cet effort démesuré. Ses deux compagnons, frère Léon et Bonizio de Bologne, n'avaient pas été choisis au hasard. Léon était le confident irremplaçable et Bonizio un juriste bolognais. Ce fut alors, comme pour l'aider à voir clair dans sa tâche, qu'il eut en songe une vision déterminante. Il ramassait à terre des miettes de pain pour les donner aux milliers de frères autour de lui. Elles étaient minuscules. Comment faire ? Une voix lui dit « François, avec toutes ces miettes, fais une hostie et tu pourras en donner à tous ceux qui le désireront. » Il le fit, et ceux qui la recevaient sans en avoir le désir étaient frappés de lèpre. Le sens de ce rêve échappait à François, mais tandis qu'il priait, le soir même, la voix lui expliqua « François, les miettes, ce sont les paroles de l'Évangile. L'hostie, la règle. La lèpre, le péché. » Le jeûne terminé, François appela Léon en lui disant d'apporter de quoi écrire. Tous deux s'installèrent devant la grotte, au pied d'un arbre, et François dicta sa règle sous l'inspiration divine. Cette certitude intérieure, on eût dit que la nature entière la renforçait dans tout son être. Le Val s'ouvrait devant lui avec ses précipices boisés, et tout au loin, la cime neigeuse des monts brillait au bas du ciel. Le murmure continu des sources voisines, loin de troubler l'immensité du silence, semblait se confondre avec lui. Il est certain que le texte de la règle n'en fut pas moins soumis à frère Bonizio, qui pouvait donner d'utiles conseils sur les termes à employer dans le sens juridique, de manière à déjouer la cautèle des ministres chicaneurs. À la portion cul, cependant, on commençait à s'interroger sur l'absence de François. Aucune nouvelle. On savait où il se trouvait. C'était tout. Et l'hiver tirant à sa fin, Élie et plusieurs des ministres de la fraternité décidèrent de se rendre sur les lieux. Ce qui les inquiétait plus que tout était cette règle qu'on attendait de lui en remplacement de la première, écartée. Lui fallait-il tant de jours pour ce travail? Dans leur imagination, plus le temps passait, plus il la voyait s'allonger, et il la voulait brève et raisonnable. Ils allèrent donc à Rieti, et de là, à cheval, à Fontecolombo. François les vit arriver sans plaisir. Avec Élie seul, il aurait pu parler à cœur ouvert, car il ne se défaisait pas d'une vieille affection pour cet homme ondoyant, qui fut sans doute son meilleur ami de jeunesse. Mais la présence des 6 ou 7 ministres ne pouvait que l'agacer à cause de leur suffisance. Ils ne savaient pas qu'à Rieti, craignant que sa règle ne fût trop dure, ils avaient insisté pour qu'Élie allât trouver François, et lui dit qu'il ne voulait pas de cette règle et qu'il la garda pour lui seul. Élie avait refusé net. Il ne voulait à aucun prix s'exposer aux reproches du poverello. Mais les ministres revenus à la charge n'en démordaient pas. Finalement, Élie céda, et le petit groupe agité se mit en route pour l'ermitage. « Que veulent ces frères ?» demanda François en les voyant. Élie, sans doute à contre-cœur, transmit le message. La scène a été racontée de diverses manières. Il est triste d'avoir à écrire que, selon toute probabilité, les ministres eurent gain de cause. Élie emporta la règle, promit de l'examiner à Rieti, et d'en dire son sentiment à François dès qu'ils en auraient tous discuté. Le poverello dut cruellement souffrir. Il adressa cette parole douloureuse au Christ. « Seigneur, ne t'avais-je pas dit qu'il n'aurait